Escapade et vous.
En studio
ou en balade autour d'un micro,
l'émission qui vous donne la parole.
Escapadez-vous.
Les initiatives locales se racontent à l'antenne. Bonjour à toutes et à tous, auditrices et auditeurs de Radio Escapade. Vous êtes bien à l'écoute sur le 102.0, le 103.3, le 104.1 et le .org pour le reste du monde. Et bien Radio Escapade est installée ici au Salon du Livre à Saint-Hippolyte-du-Fort, organisé par la mairie. Alors durant une heure, nous allons recevoir trois auteurs, Serge Valentin, Frédéric Demony et Jean-Pierre Cabanne. Et nous allons démarrer, bien sûr, avec Jean-Pierre Cabanne qui est à ma droite. Bonjour. Je vous laisse prendre le micro.
Bonjour.
Ça va, vous êtes bien installé?
Oui, très bien. Ouais.
Parfait. Alors Jean-Pierre Cabanne, vous êtes avocat et auteur de nombreux romans. Et j'ai envie de démarrer avec votre côté justement avocat. Est-ce qu'il y a un lien entre la plaidoirie et l'écriture?
Bon, d'abord, je suis avocat honoraire parce que j'ai pris ma retraite il y a trois ans. Et je ne plaide plus depuis cette période. Bon, j'ai exercé 48 ans. Est-ce qu'il y a un lien? J'en sais rien.
Vous ne savez pas?
Non. Je pense qu'il y a une volonté de s'exprimer qui est commune aux deux activités. Quand je plaidais les procès, j'avais bien sûr une obligation de respecter la position dans laquelle j'étais, et qui était la position de mon client. Quand j'écris ce que je veux. Voilà. Je n'ai pas d'obligation, sauf celle d'écrire bien, le mieux possible.
Merci. Alors, dans vos derniers romans, l'Italie est très présente, que ce soit Rhapsodie italienne ou votre roman aujourd'hui que vous présentez ici au Salon du Livre, Rendez-vous à Naples. J'allais dire un petit peu, pourquoi d'abord l'Italie avant de parler de votre livre?
Oh, l'Italie, c'est une vieille histoire. L'Italie, c'est depuis très longtemps. Donc, j'ai un amour de l'Italie, une passion. J'y suis souvent. J'en reviens, là maintenant j'en reviens, j'y retournerai certainement bientôt. J'ai des amis italiens, je parle italien, je connais bien l'histoire italienne et le monde italien en général. Voilà.
Et l'inspiration justement pour votre écriture, est-ce qu'elle est souvent par exemple liée à un retour de voyage ou lorsque vous êtes là-bas sur place, pas forcément?
Non, d'abord j'ai lu beaucoup de choses. Je sais beaucoup de choses sur l'histoire italienne. Mes amis italiens me disent souvent que je connais mieux leur histoire qu'eux-mêmes, ce qui n'est peut-être pas faux. Non, quand j'ai un roman, avant de commencer à écrire, il me faut quand même plusieurs mois, le temps de monter dans ma tête avant de me mettre à écrire. Bon, je trouve parfois en Italie des lieux qui seront des lieux que je décrirai plus tard dans mon livre. Hein. Bon, certains n'ont pas bougé, d'ailleurs. Et puis voilà, mais ce ne sont pas les lieux qui m'inspirent proprement parler. Dans Rhapsodie italienne, il y a le lieu où a été exécuté le Conte Ciano, et je connais cet endroit, j'y suis allé, voilà.
Ça aide un petit peu quand même dans votre imagination.
Ça aide à décrire des lieux exactement. Voilà.
Et dans votre manière, enfin dans votre travail d'écriture, comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez des rituels? Alors, quelle sorte d'écrivain êtes-vous? Est-ce que vous vous mettez des horaires? Est-ce que vous travaillez dans le calme?
Non, j'écris quand j'ai envie d'écrire. J'écris dans le calme, parce qu'il n'y a pas de calme, vous n'écrivez pas. Donc je ne veux pas de bruit autour de moi, je ne veux personne autour de moi. Et voilà, ça se passe comme ça. Mais je ne mets pas de musique non plus. J'écris, puis c'est tout.
Très bien. Alors aujourd'hui, au Salon du Livre, vous présentez l'un de vos livres, donc Rendez-vous à Naples. Alors, est-ce une histoire d'amour sous fond de révolution, de guerre ? Est-ce que vous pouvez un petit peu présenter aux auditrices et auditeurs votre livre ?
C'est l'histoire de Marie-Sophie, qui était une des sœurs de Sissi. Et je raconte dans le roman une histoire d'amour qui est partiellement créée de toutes pièces, qui a existé, mais pas dans les conditions que je raconte, peu importe d'ailleurs. Marie-Sophie a été l'épouse du dernier roi de Naples, Francesco II, François II. Elle a régné avec lui pendant un an à peu près, jusqu'à l'arrivée de Garibaldi et l'invasion piémontaise. C'est la deuxième partie du Risorgimento. Le Risorgimento, c'est la résurrection. En un mot, si vous voulez, dans un premier temps, le Risorgimento, ça a été la révolte des pays occupés par l'Autriche contre l'Autriche, de Venise à Milan, aidée par les piémontais. Ça a commencé en 1848. D'ailleurs, le livre commence en 1848, lors de ce qu'on appelait les 5 jours de Milan. Puis ça se poursuit, ça va jusqu'à Solferino. Solferino, les Autrichiens sont battus définitivement. Bon, mais Solferino, c'est 1859 quand même, hein. Donc ça fait 11 ans. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie est moins sympathique. C'est quand les Piémontais, qui étaient vainqueurs, qui avaient réalisé l'unité d'Italie, notamment grâce à Cavour, ont occupé le sud de l'Italie et notamment le royaume de Naples. Et c'est la deuxième partie du livre, avec l'invasion de la région napolitaine ou du sud, ce qu'on appelle le royaume de Naples et des deux Siciles. Ça va de Naples jusqu'à Bari, si vous voulez, la Sicile comprise. Et ça a été cette invasion piémontaise qui est toujours restée d'ailleurs dans la gorge des Napolitains qui n'ont jamais accepté. J'étais à Naples en 2011 quand il y a eu les festivités des 150 ans. Je peux vous dire que les Napolitains, la réunion de Naples avec l'Italie, ça ne les enthousiasme pas. Hein. Voilà. D'ailleurs, d'une manière générale, ils méprisent tout ce qui est au nord. C'est comme ça, c'est Naples. Voilà.
Et l'histoire d'amour ?
Ah, mais l'histoire d'amour, c'est l'histoire avec un Milanais qui se bat dans l'armée piémontaise et Marie-Sophie. Il faut dire que le mari, l'époux de Marie-Sophie, François II, était un peu déficient. Enfin, il était déficient. D'une manière générale, c'était un garçon totalement sincère, mais qui avait sombré dans l'ambiance où il était, dans une espèce de religiosité blâmable. Et il n'était pas d'une séduction folle, si j'ose dire. Donc Marie-Sophie était une jeune fille, puis une jeune femme, elle avait 20 ans. Bon, c'est pas ce qu'elle cherchait. Hein. Ce mariage, elle ne l'avait pas choisi. C'est sa mère, la fameuse Ludovica, qui avait déjà marié Sissi avec François-Joseph. Qui a trouvé le royaume de Naples pour marier Marie-Sophie. Bon, tout ça, parce que le royaume de Naples était riche. Hein. Voilà, c'est ça la raison.
Est-ce que l'amour ou les histoires d'amour sont souvent présents dans vos romans ?
Mais bien sûr, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Si vous y réfléchissez, la relation amoureuse, la passion amoureuse, ça fait partie des charmes et des dangers de l'existence, bien sûr. Bien sûr, c'est présent. Si j'écris un roman où il n'y a pas d'histoire d'amour, mon pauvre, c'est pas un roman.
Merci beaucoup, Jean-Pierre Cabanne, d'être venu au studio de Radio Escapade, ici installé au Salon du Livre, organisé par la mairie de Saint-Hippolyte-du-Fort. Donc, on peut encore venir pour découvrir vos romans, et notamment Rendez-vous à Naples, jusqu'à cette fin d'après-midi, il me semble, jusqu'à 18h. Oui, jusqu'à 18h. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Radio Escapade est toujours installée ici au Salon du Livre organisé par la mairie de Saint-Hippolyte-du-Fort. Vous êtes toujours à l'écoute sur le 102.0, le 103.3, le 104.1 et le .org pour le reste du monde. J'ai été donc, Frédéric Debomy vient de nous rejoindre ici sur le plateau radio. Bonjour.
Bonjour.
Alors Frédéric Debomy, vous êtes auteur de plusieurs BD. Et aujourd'hui au salon, vous présentez notamment la BD Indignez-vous, la violente espérance de Stéphane Hessel. J'ai envie de poser la première question, pourquoi Stéphane Hessel ?
Ah, alors en fait, cette bande dessinée, c'est assez inhabituel pour moi, c'est une commande en fait. En général, j'initie mes propres projets. Là, c'est les deux éditeurs de Indignez-vous, le petit livre de Stéphane Hessel qui était paru il y a 12 ans. Et qui avait connu un destin assez inattendu, quoi, tiré à 8000 exemplaires, vendu à des millions d'exemplaires dans le monde. Ils ont voulu, les deux éditeurs, raconter l'histoire de ce petit bouquin, ce qui amène à raconter l'histoire de Stéphane, son engagement dans la résistance, son passage aux Nations Unies, cette vie d'engagement. Et ils ont fait appel à moi parce que je les avais parfois rencontrés brièvement, et ils savaient deux choses, c'est que j'étais scénariste de bande dessinée et que j'avais moi-même connu Stéphane, et un peu travailler avec lui.
Et est-ce que la réponse oui a été une évidence tout de suite ?
Pour moi ?
Oui.
Alors ce qui m'a intéressé, c'est que clairement la démarche des deux éditeurs, ça je l'ai senti, n'était pas de refaire de l'argent à partir d'un livre qui avait connu un succès phénoménal. C'était pas ça. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était remettre le message de Stéphane Hessel, le message d'Indignez-vous, sur la table, à un moment où il y a une prégnance des idées de l'extrême droite, où il est bon, pour des tas de raisons, de remettre ce message sur la table. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'est que c'était pas une adaptation du petit bouquin. C'est un livre qui est basé en grande partie sur des anecdotes inédites que je joue aux deux éditeurs. Donc c'est un nouveau livre, en fait. Et j'ai pu choisir la dessinatrice. Et ça, pour moi, en tant qu'auteur, c'était important de choisir un dessin dans lequel je me retrouve, étant moi-même donc scénariste, pas dessinateur, mais je travaille toujours avec des gens dont j'estime le dessin.
Alors justement, avant de parler de votre travail avec Lorena Canotière, comment est-ce que l'écriture, sur ce que vous venez d'expliquer, justement les petites anecdotes, etc., s'est passée pour vous ? Comment est-ce que vous avez écrit ?
Alors il y a eu des échanges avec les éditeurs, et puis les deux éditeurs avaient réfléchi déjà à une trame et fourni une documentation. Ils m'avaient attiré l'attention sur certaines choses qui leur paraissaient importantes. Après voilà, alors, tout était loin d'être fait, mais je ne suis pas parti de rien. J'ai été chercher ou retrouver d'autres informations. Il y avait aussi des choses auxquelles je tenais, sachant que cependant, il s'agissait jamais de parler à la place de Stéphane, en fait. Donc j'ai été attentif à ne jamais lui faire dire des choses qu'on aurait nous souhaité dire plus que lui. Je crois que c'est vraiment, on est très près de sa parole, en fait, tout le long. Et donc voilà, j'ai écrit un scénario et l'enjeu, c'était en une cinquantaine de pages, c'est pas très long, de raconter beaucoup de choses finalement, le rapport d'un homme au monde, qui est un rapport donc qui n'est pas un rapport d'indifférence à ce qui se passe autour de lui, et c'est même tout le contraire. Donc raconter ce rapport au monde, raconter son expérience de la résistance, son expérience des camps, son amour de la poésie, et tout ce qui s'est passé avec Indignez-vous. Quand ce petit bouquin est sorti, il se passait beaucoup de choses, et cette sortie a résonné avec ce qui se passait sur la planète. Il y avait le printemps arabe, il y avait Occupy Wall Street à New York contre la finance, il y avait des mouvements un peu partout, en fait, au Japon contre le nucléaire, en Espagne pour un accès au logement, au Chili pour une réforme de l'éducation. Il y avait un moment d'insurrection pacifique qu'on rappelle dans le bouquin. Et donc faire tenir tout ça en 50 pages sans que ce soit plombant, mais au contraire que ça vive, d'autant que Stéphane était un être très vivant. Et donc voilà, il fallait restituer tout ça, mais dans un récit, quoi, quelque chose qui se lit bien et avec plaisir.
Merci. Alors justement, les dessins sont de Lorena Canotière. Comment, alors le choix déjà de la dessinatrice, c'est vous qui l'avez fait ?
C'est moi qui l'ai fait avec l'accord des éditeurs.
D'accord. Vous aviez déjà travaillé avec Lorena ?
Non, mais j'avais. Je connaissais déjà son dessin et je la connaissais un tout petit peu. Et donc, elle a été disponible et intéressée. Donc, c'était très bien.
Et votre collaboration, donc, s'est passée comment entre l'écriture, le dessin? Est-ce qu'il y a eu des va-et-vient? Expliquez-nous un petit peu la face cachée qu'on n'entend pas souvent.
Pour l'essentiel, ça a été en deux temps. C'est-à-dire moi qui fais mon travail, puis elle qui fait le sien. À ceci près qu'elle a storyboardé, c'est-à-dire fait un croquis de tout le... Elle a mis en croquis, on va dire, en brouillon, tout mon scénario, ce qui m'a permis de jeter un œil avec les éditeurs et éventuellement de demander ici et là quelques modifications, quoi. Et donc, une fois que cette phase du bouquin entièrement esquissé était validée, elle savait qu'elle pouvait faire ses pages définitives. A priori, on était tous d'accord sur ce qui restait à faire, et donc elle pouvait librement se consacrer à ça.
Votre collaboration a duré combien de temps ?
Je ne saurais pas dire exactement. Il me semble que j'ai été sollicité par les éditeurs il y a un an à peu près, peut-être un peu plus maintenant, je ne sais plus précisément. Mais du coup, c'est un livre qui s'est fait un peu dans l'urgence, assez vite. Lorena a mis plusieurs mois à dessiner le livre.
Dans vos autres BD, il y a souvent des thèmes de révolte, sous fond un peu de guerre, etc. Notamment, vous avez fait une BD sur la Birmanie. Est-ce que pourquoi ces thèmes-là ? Est-ce que c'est vraiment votre ADN d'aller vers des sujets un peu engagés ?
C'est au moins une grande partie de mon ADN. Effectivement, ça me vient comme ça. Enfin, la Birmanie, c'est une grande partie de ma vie. J'ai été engagé sur cette question à plus d'un titre. J'ai dirigé une association pendant des années. Donc ça fait plus de 20 ans maintenant. Ça fait plus de 20 ans maintenant. Et c'est comme ça que j'avais rencontré Stéphane Hessel, d'ailleurs, qui était l'un de ceux qui s'intéressait à la question birmane au début des années 2000, quand je m'y suis moi-même intéressé. Et donc, quand on parle de résistance, je suis toujours heureux de pouvoir rappeler que depuis le dernier coup d'État militaire dans ce pays, qui date de février 2021, on a une grande part de la population birmane qui résiste à ce coup d'État militaire au prix de lourdes pertes humaines. Et ça, c'est quelque chose qui a été couvert par la presse assez bien pendant, on va dire, 4 mois après le coup d'État, et qui ensuite n'a plus été couvert du tout, quasiment. Mon téléphone a arrêté de sonner presque du jour au lendemain, alors que j'étais sollicité par les médias français, belges, suisses. Et pourtant, ça ne correspond pas à un arrêt de ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire qu'en Birmanie, en fait, le problème est toujours là, les militaires sont toujours là, et il y a toujours de la résistance. Et donc, c'est vrai que depuis 20 ans, je suis ça, j'ai fait plusieurs livres qui en rendent compte, des essais. Là, j'ai un petit essai à 5 euros qui raconte vraiment la dernière phase, donc depuis février 2021. Et puis, il y a des bandes dessinées. Et voilà. Et ça, c'est souvent j'ai remarqué que souvent, pour le public, la Birmanie, c'est loin. Mais finalement, quand, pour une raison ou une autre, ils se retrouvent à lire mes livres, ils se rendent compte que ça les intéresse, parce que c'est des histoires humaines, hein, c'est des histoires de résistance, c'est des histoires d'engagement, et puis oui, c'est des histoires humaines.
Justement, dans votre BD, là qu'on peut découvrir aujourd'hui au Salon du Livre à Saint-Hippolyte-du-Fort, donc il y a la BD Birmanie. Est-ce que vous voulez un petit peu nous dire ce que vous nous racontez dans cette BD-là ?
Alors oui, il y en a deux, là, Birmanie, fragment d'une réalité, et puis une autre qui s'appelle Aung San Suu Kyi, Rohingya et extrémiste bouddhiste. C'est deux bandes dessinées qui rendent compte de séjours sur place effectués avec un dessinateur. Et en fait, le processus est assez simple. En fait, on a deux auteurs qui deviennent deux personnages de bande dessinée, et le lecteur est emmené sur leurs pas. Donc il fait le voyage avec nous, et il va à la rencontre d'une partie de la société birmane dans plusieurs régions. Donc il y a un côté carnet de voyage, on pourrait dire, puisqu'on découvre en partie le pays par les dessins de Benoît Guillaume qui m'accompagne. Mais surtout, on rencontre des gens qui, de l'une ou l'autre manière, résistent à la dictature, s'impliquent dans les processus de changement. Et voilà, on va comme ça d'un bout à l'autre du pays. Et l'idée, c'est d'emmener un lecteur qui n'y connaît rien, qui éventuellement ne sait même pas situer le pays sur une carte, de l'emmener, mais même dans une compréhension assez profonde du pays, mais en le lâchant jamais, quoi. On lui donne tous les éléments et on parvient à l'emmener dans une vraie connaissance du pays, même si au départ il n'a strictement aucune idée.
Et est-ce que justement dans cette écriture-là, pour cette BD-là sur la Birmanie, il y a un côté je récolte de la parole sur place et je la réécris, je la retranscris ou pas du tout ?
Oui, bien sûr. En fait, on va à la rencontre de gens, on les écoute, on observe des choses aussi en fait qui se passent sur place. On est parfois même dans des situations, ça nous arrivait, un peu délicates par rapport aux autorités du pays. On raconte tout ça, en fait. Mais du coup, les deux personnages principaux que nous sommes, nous, les auteurs-personnages, par moments discutent entre eux, mais en fait à l'attention du lecteur pour lui donner des éléments d'analyse, de compréhension, d'information. Mais surtout, voilà, on va à la découverte de tous ces gens, et c'est par eux que se dessine de rencontre en rencontre un portrait du pays et d'où en est le pays.
Et donc, comment est-ce que vous avez travaillé avec Benoît, vous m'avez dit ?
Benoît Guillaume.
Voilà, Benoît Guillaume. Est-ce que c'est à un moment donné, on revient en France, on repose sur la table l'écriture ? Lui, j'imagine qu'il a dû dessiner pendant tout le long de ce voyage. Voilà, comment est-ce qu'après, la BD, elle naît, en fait ?
Alors, les deux bandes dessinées qu'on a faites, il y en a même une troisième, mais les deux bandes dessinées qu'on a faites qui rendent compte de ces jours sur place, c'est alors la première fois, on était revenu avec 40 ou 50 pages directement de notre séjour, en fait. Donc, la seconde fois, on a tout fait après coup. Mais en tout cas, on attaque la restitution de ce qu'on a vécu assez vite, quoi. Tout est présent à l'esprit, l'atmosphère d'une rencontre. Voilà, on fait ça tant que c'est frais. C'est mieux de le faire comme ça, bien évidemment. Et il y a donc un troisième livre qui rend compte aussi de... Ça, c'était en 2007. Il y avait déjà eu un mouvement important de protestation contre la dictature. Et là, je m'occupais d'une petite association. Et donc, ce bouquin-là, il raconte à la fois le mouvement, donc des manifs, la crainte de la répression qui commence, enfin tout un peu au jour le jour, et aussi avec une espèce de ping-pong, on passe de la Birmanie à la France, et on raconte donc en parallèle ce qui se passe en Birmanie et ce qui se passe en France, où une poignée de gens, dont moi, on essaye à l'autre bout du monde de faire tout ce qu'on peut pour aider. Et on se retrouve du coup à vivre ce truc un peu étonnant où le sujet globalement n'intéresse personne jusque-là et tout d'un coup c'est la folie. Les politiques s'en mêlent, les médias s'en mêlent, de simples citoyens sortent de nulle part et on a l'impression que c'est leur cause depuis longtemps. Donc je raconte ce moment de folie et puis les relations un peu difficiles qu'on a eues avec une secrétaire d'État aux affaires étrangères, aux droits de l'homme qui était Ramayad. On évoque l'investissement total en Birmanie qui était polémique. En fait tout ce qui se passe quand tout d'un coup l'actualité se met sur un pays qui généralement est ignoré et tout le monde s'en mêle, et la plupart évidemment de ces gens qui parfois ont des comportements délirants, on les revoit pas après, en fait. Une fois qu'il n'y a plus les projecteurs, il n'y a plus personne ou il n'y a plus grand monde qui reste. Donc c'est un autre bouquin un peu particulier mais qui raconte ça.
Vous pouvez nous dire le titre de celui-ci ?
Sur le fil.
Sur le fil, ok. Merci beaucoup Frédéric de Beaumy. Donc on peut découvrir toutes vos BD ici, là, jusqu'à 18h au Salon du Livre à Saint-Hippolyte-du-Fort. Merci.
Merci.
Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio. La couleur du ciel, le nom du Corcovado, la rue Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Non, je n'oublierai jamais ce jour de juillet où je t'ai connu, où nous avons dû nous séparer pour si peu de temps. Et nous avons marché sous la pluie. Je parlais d'amour et toi tu parlais de ton pays. Non, je n'oublierai pas la douceur de ton corps dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter. dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Non, je n'oublierai jamais le jour où j'ai lu ton nom mal écrit parmi tant d'autres noms inconnus sur la première page d'un journal brésilien. J'essayais de lire et je n'y comprenais rien. Taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel, le nom du Corcovado, la Rua Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé.
Radio Escapade, Radio Escapade est toujours installée ici au Salon du Livre, donc la deuxième édition organisée par la mairie de Saint-Hippolyte-du-Fort. Donc le salon qui a eu lieu hier et continue encore aujourd'hui jusqu'à 18h. Il y a beaucoup d'auteurs, scénaristes installés ici, donc vous pouvez venir pour découvrir. Hein, il y a de la poésie, de la bande dessinée, de livres-objets, de la littérature, etc., etc. Et Serge Valentin vient de nous rejoindre ici sur le plateau radio. Bonjour Serge.
Bonjour.
Alors les auditeurs de Radio Escapade te connaissent quand même. Hein. On t'a reçu à plusieurs reprises, que ce soit dans des émissions... notamment celle de Bruno, écriture dessinée. Alors, Serge, j'ai envie de commencer directement par... Donc, tu es conteur. Alors, pourquoi est-ce que, d'un coup, on passe de l'oralité à vouloir poser des mots dans un livre ?
En fait, ce n'était pas du tout prémédité. C'est que, quand il y a eu le confinement, là, moi, j'étais avec mes histoires que je ne pouvais pas raconter. Et je savais qu'il y avait plein de parents qui auraient bien aimé avoir des histoires pour endormir leurs enfants. Les parents étaient particulièrement auprès des enfants à cette époque-là. Quoi. Et ça m'a frustré, cette histoire-là. Donc rapidement, j'ai pris un de mes contes. C'est un conte original, c'est pas la version d'un conte traditionnel. Hein. C'est vraiment une histoire que j'ai inventée à force de raconter. Quoi. Et il suffisait de la raboter au format littéraire, c'était pas grand chose quoi. Et en plus, je l'ai présenté à Didier Jeunesse, et chez Didier Jeunesse, ils aiment bien que ça ressemble encore à l'oralité.
Alors, justement, donc bon, décidément, ce confinement il a fait faire de belles choses aussi, ouais. Il faut le dire. Hein.
Ouais,
donc, effectivement, hein, tu avais envie de raconter des histoires, donc là, tu t'adresses aux enfants. Et est-ce que justement le choix de l'histoire que tu avais envie hein, justement de poser en mots, est-ce que ça a été simple pour toi, ça a été une évidence, tu t'es dit ah c'est cette histoire là.
Oui oui. Ouais. Mais disons je suis pas parti de l'idée de choisir une histoire, c'est celle-là qui s'imposait quoi. D'accord. Il y a longtemps que je voulais le faire, mais comme je suis pas auteur, mon métier c'est conteur, c'est la tchatche, c'est ça qui compte pour moi quoi.
Alors justement, ce travail de réécriture, j'imagine,
ouais.
Comment il s'est passé un peu pour toi ?
Eh bien, dans un premier temps, j'ai envoyé tapuscrit.
Oui, manuscrit, tapuscrit, je ne sais pas, je ne vais pas pouvoir t'aider.
Ben, comme c'est fait à la machine, alors... Non, mais voilà, j'ai envoyé une version écrite, et quand j'ai eu la réponse que c'était positif, après on a... c'est des éditeurs qui sont attentifs à plein de choses, et du coup ils m'ont demandé si je connaissais des illustrateurs chez moi, autour de chez moi. Et j'en connais plein, mais j'avais quand même une idée pas trop précise, mais en tout cas il y a deux choses que je voulais, c'est que le dessin commente largement l'histoire, que l'illustrateur ne se gêne pas pour inventer plein de choses. Et la deuxième, c'est que les corps soient en mouvement et non pas statiques. Voilà.
Alors l'histoire, c'est quand même, on ne l'a pas dit encore, hein, le petit Bidibi.
Voilà.
Est-ce que tu peux un petit peu dire aux auditrices et auditeurs de Radio Escapade un petit peu l'histoire ?
Eh bien, c'est un personnage avant tout qui est... Alors, pour ceux qui connaissent le mot de réboussier, c'est un réboussier. Pour les autres, il faudrait que je dise que... Quand le papa demande quelque chose, les autres enfants s'exécutent chacun à sa façon, mais lui, il fait son chemin, quoi. Il invente son système à lui pour arriver au même résultat. Voilà. Et à la fin, c'est lui qui... à la fin de l'histoire, c'est lui qui va deviner que sous le gros ours tout poilu qui arrive vers lui, c'est son grand-père, quoi. C'est le seul qui va le deviner, les autres, ils ont peur.
Ok, tu veux pas un petit peu nous en dire un peu plus ?
Et si j'en dis trop, après...
Ouais, c'est vrai, tu as raison.
Non, en tout cas, ce qui vient très fort de l'oral, c'est que chaque personnage a sa propre onomatopée. Donc, comme c'est pour les tout-petits, que souvent c'est lu par les parents, ou en tout cas par un adulte, l'idée de retrouver les onomatopées fait aussi fixer les personnages, quoi. Ça va leur donner leur caractère. C'est un livre où l'histoire est très sobre. Et Charles Dutertre, l'illustrateur, était content que ce soit un livre de conteur, parce que c'est pas trop détaillé. Le conte et les conteurs, c'est dans l'action. C'est comme du polar, quoi. Nous, on n'est jamais trop dans la description, mais par contre, toutes les actions sont vivantes. Et du coup, ça lui laissait une belle marge d'invention.
Justement, j'allais dire, donc les dessins sont de Charles Dutertre. Oui. Pardon. Comment est-ce que vous avez travaillé tous les deux ?
Alors, on a échangé... disons qu'il s'est enfermé avec l'histoire. Il a imaginé les personnages. Et on s'est contacté que au premier crayonné que j'ai reçu. À ce moment-là, on s'est téléphoné, on a rediscuté. Moi, j'ai fait quelques petits retours, mais à la marge, vraiment, parce qu'il avait bien pigé tout ce que... Il avait compris le système et à la fois des personnages et de l'histoire, quoi.
Ça veut dire que très très rapidement, il a, avec son inspiration, sa liberté, ouais. Tu t'es satisfait des dessins et des personnages dessinés.
Ouais, au-delà de tout. Ça a dépassé mon espérance. Sinon, que, c'est vrai que j'ai... Mais moi, étant dans les Cévennes, j'imagine toujours des petits enfants, petits, bruns. Et là, je me retrouve avec un tout autre type de personnage. Alors. J'ai d'abord sursauté, puis après j'ai trouvé que c'était tellement bien placé dans son univers à lui. Parce que pour un auteur, c'est embêtant aussi de lâcher ses personnages. Il ne faut pas tomber sur n'importe qui.
C'est pour ça, c'est assez extraordinaire finalement, parce que c'est quand même une première collaboration. Et...
Oui, mais parce que c'est passé par l'éditrice aussi.
Voilà, tu peux un petit peu nous expliquer. Donc ce n'est pas ton choix en fait, c'est l'éditrice. Non. Donc la maison d'édition, c'est Édition Jeunesse ?
Didier Jeunesse, oui.
Didier Jeunesse.
Oui, oui. Et c'est Servane Guillot qui, dans la maison, était l'éditrice de ce livre-là, cet album Jeunesse, et qui m'a demandé d'abord si je connaissais des illustrateurs.
Oui.
Moi, j'en connais tout plein qui dessinent des très belles choses, très douces. Mais ce que je voulais, c'est quand même qu'il y ait vraiment du mouvement rapide, quoi. Que ce soit malin et pétillant, quoi. Donc c'est elle qui a... dans la maison, elles se sont mises à plusieurs à réfléchir à qui... parce que moi, je m'étais dit que c'était leur gourmandise aussi. Si j'étais éditeur, moi, j'aimerais bien recevoir un texte et puis essayer de trouver la personne idéale qui va le mettre en valeur, quoi. Et là, ça a été très réussi. Moi, je leur suis vraiment reconnaissant.
Alors justement, tout à l'heure, je rebondis, tu as dit, moi je suis dans les Cévennes, je m'imaginais tel et tel personnage. Charles Dutertre, pardon, j'ai du mal, il est où lui? Parce que justement, si tu fais référence...
Il est à Nantes.
Ah, il est à Nantes,
ouais.
Ok.
C'est d'accord. Un peu plus haut que les Cévennes. Quand on sort des Cévennes, c'est... il y a un peu de route encore.
Et je voulais justement te demander... Alors ici, dans les Cévennes, dans le coin, etc., donc on connaît Serge Valentin en tant que conteur. Comment est-ce que
c'est vertigineux le nombre de gens qui ne me connaissent pas.
Oui, oui, oui. Et comment est-ce que le livre, en tout cas autour de toi, les gens qui suivent ton travail, qui t'écoutent, qui ont découvert tes contes, etc., comment ça a été pris l'arrivée de ce livre?
Mais, vu les circonstances exceptionnelles, puisque... Même une fois qu'il est sorti, en janvier, là. Et les gens qui étaient restés pas mal isolés avaient vraiment besoin... On le sent encore, là, maintenant, quand on fait des spectacles. Les gens se déplacent, viennent voir, et il y a une gourmandise, quoi. Donc, d'entrée, il a reçu un bon accueil. Mais après, le retour principal que j'ai, c'est... dis donc... On vit tous les jours avec lui, parce que tous les soirs, il faut le lire. Et voilà. Donc pour moi, ça, c'est le meilleur hommage.
Est-ce que tu le comptes encore?
Bien sûr, alors, plus que jamais.
Alors ça fait quoi, justement, de le compter, de savoir qu'il est en support livre aussi? Est-ce que ça a changé quelque chose, en tout cas? Est-ce que ça a changé quelque chose?
Oui, alors après, ça, c'est l'arrière-boutique. À savoir que je ne savais pas que le livre était important à ce point. Oui. Bruno Canard me l'avait dit, mais bien sûr, j'avais reçu ça, mais pas à la dimension où ça s'est révélé après. C'est-à-dire que le fait d'avoir écrit le livre fait que j'ai été demandé déjà par des médiathèques, par des gens qui s'intéressent au livre, comme conteur.
Oui.
C'était un complément au conte. C'est-à-dire que parmi les conteurs, ceux qui ne me connaissaient pas trop, qui pouvaient me confondre avec quelqu'un d'autre, du coup, qu'ils ont eu le livre, c'était indiscutablement ce travail-là qu'ils voulaient, ou qu'ils ne voulaient pas, après, je ne sais pas, mais ceux qui le voulaient savaient ce qu'ils recevaient comme spectacle, quoi. Et c'est un truc très interactif, de toute façon.
Et toi, personnellement, intérieurement, qu'est-ce que ça te fait de le compter aujourd'hui?
Ça me fait une nouvelle dimension à l'histoire. De toute façon, du fait des retours aussi, de le travailler, ça m'a obligé à préciser certaines choses. Parce que le travail d'un éditeur, c'est de dire, mais tu es sûr que tu veux ça? Et alors, des fois, je dis oui. Oui, mais quand même, oui, je le veux. Et des fois, c'est tout le contraire. C'est, ça serait peut-être bien de reprendre ça sur une autre façon de l'exprimer, parce que dans un livre, c'est quand même un livre. Même si ça ressemble à l'oral, c'est écrit. Donc on est dans un travail de précision comme ça. Et il y a des choses que j'ai changées et que j'ai gardées dans ma nouvelle version contée. Parce qu'elles étaient judicieuses, quoi. Et c'est ça l'intérêt de travailler avec des professionnels d'un domaine qui est juste voisin, c'était super.
Merci beaucoup, Serge Valentin, d'être venu ici sur le plateau de Radio Escapade.
Merci.
Très bonne journée.
Et oui.
Et longue vie au petit Bidibi.
Et bien, pareil à Radio Escapade, parce que c'est complémentaire.
You the cold maids say one prison call in 99 Jews all right.
Escapade est toujours installée ici au Salon du Livre à Saint-Hippolyte-du-Fort, donc organisé par la mairie. Alors avec moi, je ne l'ai pas dit encore, mais Antoine en technique, merci beaucoup. Et Camille Sauvant vient de me rejoindre ici sur le plateau radio. Bonjour Camille.
Bonjour à vous.
Alors Camille, on a eu plusieurs auteurs, que ce soit sur le plateau radio d'hier ou là de ce matin. J'aurais aimé qu'on évoque tout ce qu'il y a aussi d'autres, surtout tout au long de la journée, ici au Salon du Livre, parce qu'il y a quand même de la poésie, de la bande dessinée, il y a des livres d'artistes. Les livres d'artistes, est-ce que tu peux peut-être un petit peu nous présenter tout ce qu'on peut découvrir ici l'espace Cévenol, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, ça se passe à l'espace Cévenol, à Saint-Hippolyte-du-Fort, jusqu'à 18h.
Voilà, on a les grandes maisons d'édition qui sont représentés par les deux libraires. Je pensais que c'était quand même absolument important que les libraires soient présents. C'est pour ça qu'il y a Alter Livre de Sauve et La Cigale à lunettes de Saint-Hippolyte-du-Fort, qui chacun représente pour Alter Livre la littérature française et étrangère, et pour La Cigale à lunettes, la littérature jeunesse, avec bande dessinée, et la littérature régionale. Comme ça, on a un équilibre des deux côtés et le choix est complet. Et on a aussi, parce qu'on a eu un succès absolument énorme l'année dernière qui n'était pas prévu avec la poésie. On n'avait jamais vendu autant de livres de poésie depuis 2000 ans à Saint-Hippolyte-du-Fort. Ça a été un bonheur. Et on a réinvité quelques maisons d'édition l'année dernière. Et j'ai tenu quand même parce qu'il y a beaucoup de changements et qu'il y en ait des nouvelles également qui font des petits livres remarquables à des prix tout à fait abordables. On peut bien sûr, si on est bibliophile, acheter des tirages de tête. Ce n'est pas le même prix, c'est dans un esprit de collection, c'est autre chose. Mais tout est possible. Il y a beaucoup d'illustrations, beaucoup de graveurs, dont certains d'ailleurs, depuis 20 ans, sont passés à la Galerie du Bout du Monde. Donc on a beaucoup d'amis ici sur place qui viennent avec, à Saint-Hippolyte-du-Fort avec plaisir.
Alors Camille Sauvant, donc vous êtes déléguée à la culture hein, pour la mairie de Saint-Hippolyte-du-Fort. Justement, donc là, cette année, c'est une deuxième édition. Comment est-ce que le Salon du Livre se crée, s'invente? Combien de temps ça prend? Comment est-ce que ça se passe pour arriver à aujourd'hui une salle pleine d'auteurs, de scénaristes, d'artistes?
Ben, ça prend presque 8 mois ou 10 mois. Dès le mois de décembre, janvier, on contacte les éditions. On choisit d'abord ceux qui nous intéressent. Pendant toute l'année, déjà, on va à des expositions. Je suis allé à l'expo de Rodez, le Salon du Livre de Rodez, de Barjac. À Paris, je n'ai pas pu y aller. Et c'est comme ça aussi qu'on découvre des tas d'auteurs et d'éditeurs qu'on sélectionne aussi sur Internet, qu'on sélectionne par recommandation. Et petit à petit, pendant 8 mois, on fait notre marché. Et on invite ceux qui nous semblent les plus intéressants pour Saint-Hippolyte. Et c'est comme ça que ça se passe. Ça prend un temps fou.
Est-ce que vous pouvez nous
dire... Mais c'est passionnant.
Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être 2-3 coups de cœur? C'est compliqué, hein? Mais...
C'est compliqué parce que toutes les nouvelles éditions qui sont là, c'est des coups de cœur. Il faut aller sur place, il faut aller les voir, il faut aller les interviewer. Ils ont des tas de choses à dire.
Merci beaucoup, Camille.
Je représente les livres, mais ce sont des bavards aussi.
Ce sont des bavards, tout à fait. Merci beaucoup, Camille. Très bonne journée. Et bien voilà, cette émission touche à sa fin. Merci, Antoine, de m'avoir accompagné en technique. Et je vous souhaite une bonne continuation sur les ondes.
Dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, come di orchestra illusa Napoli, e poi sgridata di Napoli. Comedy, don jour. Tadetadam, tadetadam, tadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetadetad la comédie de ta vie, la comédie, la comédie, la comédie, la comédie. La comédie. La luce piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, 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 antica amante vista Napoli, con lontanissimi binocoli. Comedy, comedy, don Giulio. il suono dolce di felice qui. Comedy, 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 comedy orchestra che precipita in un ventilatore al Grand Hotel. Comedy, comedy, don't you? Da 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 da. La comédie d'Anjou, la comédie d'Italie, la comédie, la comédie, la comédie.
Escapade et vous.
En studio
ou en balade autour d'un micro,
l'émission qui vous donne la parole.
Escapadez-vous.
Les initiatives locales se racontent à l'antenne.